L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
On le disait il y a quelques instants, on va revenir sur les grandes priorités de cette rentrée scolaire 2026. Vous recevez pour en parler la membre du gouvernement en charge de l'enseignement et le vice-recteur.
Oui, Isabelle Chamorro et Didier Vindatige, bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation à 4 jours maintenant du retour en cours pour les premiers élèves, à une rentrée qui va s'étaler comme chaque année sur 2-3 jours pour que tous les niveaux rentrent. On va faire un point global sur cette rentrer avec vous, puisque vous avez fixé les grandes orientations hier lors d'une conférence de presse. Si vous voulez bien, monsieur le vice-recteur, un tout petit mot avec vous pour commencer sur les effectifs, parce qu'on les scrute toujours aux rentrées scolaires. 59 782 élèves, on parle bien de l'ensemble, la totalité des élèves scolarisés en Calédonie.
Il s'agit de l'ensemble des élèves, en effet. Donc le constat démographique est connu, nos effectifs sont orientés à la baisse. C'est particulièrement vrai à cette rentrée dans le premier degré, moins pour le second degré, puisque là on est sur un palier, stabilisation des effectifs. Mais la tendance, elle est baissière. Je vous rappelle, par exemple, pour le second degré, on avait perdu 3000 élèves ces 10 dernières années. On en perdra encore 1000 d'ici 2050.
Voilà, donc la tendance est à la baisse. Il faut s'adapter. Il y a forcément une carte scolaire qui évolue. Ensuite, après les événements, on sait qu'elle avait déjà évolué. Est-ce qu'aujourd'hui, pour cette rentrée, il y a eu des fermetures d'établissements ou des ouvertures d'établissements, ou on s'adapte en permanence?
Alors, on s'adapte en permanence, mais naturellement, il faut adapter le réseau de nos établissements pour accueillir correctement les élèves. À cette rentrée-ci, comme vous le savez sûrement, sur Thio, il y avait un besoin scolaire qui représentait 150 élèves à scolariser. Donc de la place pour un seul collège. Et donc c'est le collège privé qui a fermé à Thio à cette rentrée-ci.
Isabelle Chamorro, ça nous amène à parler de l'ADEC. C'est une actualité importante pour cette rentrée scolaire avec l'annonce de la fermeture de plusieurs internats, notamment dans les communes de l'intérieur. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur ce dossier? Est-ce que les choses avancent? Est-ce que les enfants qui étaient dans ces internats de l'enseignement catholique à Bouraï, Païta, La Foy et autres vont trouver une place à la rentrée? Comment ça s'organise?
Tout d'abord, je voudrais profiter de cette antenne pour remercier toutes les personnes qui préparent la rentrée maintenant depuis l'année dernière. Concernant l'ADEC et l'enseignement privé de manière générale, c'est une priorité, c'est un dossier très important. Donc je voudrais déjà dire quand même qu'au niveau budgétaire, toutes les collectivités, notamment le gouvernement, vont évidemment prévoir en 2026 de continuer à soutenir l'enseignement privé, que ce soit pour le fonctionnement des établissements, mais aussi pour les cantines et pour les internats. Je voudrais quand même rappeler par exemple que rien que la masse salariale des enseignants pour le privé, c'est 14 milliards et c'est pris en charge notamment dans cette fameuse mise à disposition globale et gratuite. Donc le soutien va perdurer. Il n'en reste pas moins que certains internats sont déficitaires, notamment au niveau de l'ADEC, et l'ADEC a choisi de faire une réforme en interne. Donc nous, notre rôle, c'est de soutenir ces établissements et de faire en sorte surtout qu'à la rentrée, c'est le travail qu'on est en train de faire, puisque l'ADEC nous a enfin transmis hier, en courant de matinée, une liste beaucoup plus précise des élèves concernés. Donc c'est notre travail d'ici lundi, et c'est l'engagement qu'on a pris de faire en sorte que toutes les familles, que tous les élèves concernés aient une solution pour lundi.
D'après les éléments que vous avez, ça devrait être possible?
Alors on voit que l'ADEC a déjà fait un travail interne aussi sur ses propres internats établissements. Donc ce sont des communes comme La Foy, Bouraï, Païta qui étaient particulièrement touchées. Donc là, il va y avoir des réorganisations internes et on va faire un point avec l'ADEC sur ce sujet. Je suis un petit peu plus inquiète, par exemple, sur Puebo, puisque c'est quand même évidemment une commune isolée et qu'il faut qu'on trouve des solutions particulières pour les familles qui sont sur cette commune. Mais on va s'y atteler d'ici lundi.
Donc ça, c'est un dossier qui devrait être réglé en grande partie d'ici lundi. Et puis le dossier sur le financement de l'enseignement catholique et des enseignements privés se poursuit, bien évidemment. Il y a encore des questions à trancher. Didier Vindatige, il y a aussi quelques nouveautés pour cette, je parle en termes de programme ou d'examen pour cette année 2026, et notamment sur le DNB, qui se passe en fin de troisième, généralement.
Absolument.
Il y a des adaptations par rapport aux examens qu'on connaissait les années précédentes.
Oui, le DNB connaît deux modifications majeures, et je pense que les parents seront informés par les chefs d'établissement qu'ils vont bientôt rencontrer. La première modification, c'est que quand bien même l'évaluation reste une évaluation par compétences, en classe de troisième, il y aura aussi une évaluation chiffrée dans chacune des 12 disciplines enseignées au collège en classe de troisième. Et la deuxième modification importante, c'est que le poids du contrôle continu baisse, puisqu'il passe dans la pondération, passe de 50 à 40, et donc le poids des épreuves terminales s'accroît. De 50 à 60%.
On se pose beaucoup de questions sur ce DNB, son utilité. Est-ce qu'en fin de troisième, il sanctionne vraiment un parcours? Est-ce qu'aujourd'hui, il représente encore quelque chose et un examen important?
Il représente la fin d'un cycle d'études. Je pense que c'est important de préparer les élèves à passer des examens parce qu'ils en passeront d'autres plus tard, le baccalauréat et d'autres. Et chacun sait cependant que le DNB n'est pas obligatoire pour passer en seconde. C'est vrai. Il n'empêche que c'est un bon exercice.
C'est une sorte de préparation pour la suite, quoi.
Voilà.
Alors, on va parler aussi des conditions de cette rentrée parce qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels vous avez insisté hier. D'abord, c'est une question récurrente sur le harcèlement et le décrochage. On sait que c'est une préoccupation qui commence malheureusement de plus en plus jeune, puisqu'on a des cas de harcèlement, voire de décrochage déjà en primaire. Dans certains cas, c'est une préoccupation très importante. Isabelle Chamoreau, vous allez mettre des actions précises sur ce dossier.
Oui, alors on a beaucoup parlé de la pédagogie hier, mais aussi beaucoup de l'environnement de l'élève. Donc déjà sur la question du harcèlement, ça fait plusieurs années que nous sommes engagés sur ce sujet. Ce qui était important, c'est de former nos équipes, parce que pour pouvoir protéger les enfants, il faut qu'on soit dans la prévention, dans la détection. Donc les équipes du vice-rectorat ont fait un gros travail sur ce sujet. Et maintenant, tous nos établissements publics, donc sous la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ont une première étape de formation, donc avec un protocole. C'est très important de savoir en termes de harcèlement comment détecter et comment réagir. Donc la grande avancée, c'est que nos établissements maintenant ont une équipe formée. Et ça, c'est vraiment une étape importante. Ça va aussi sur la question du numérique, hein, mais je pense qu'on en reparlera parce que le harcèlement peut aussi se traduire également sur ce sujet. Plus largement, on a parlé aussi de la sécurité dans nos établissements. Nous avons chaque année une réunion avec le Haut-Commissariat pour préparer la rentrée. Ça nous permet de voir ce qui s'est passé dans nos établissements pendant les vacances. Un constat positif. Pas de dégradation majeure, sauf à Dambéa où on a eu des écoles primaires. Mais nos établissements sont en bon état pour commencer la rentrée. Et sur la question du décrochage, un sujet important puisqu'on travaille aussi avec la mission interministérielle. Donc nous, on a nos propres dispositifs hein, qui sont déjà en état de marche, mais il y a encore trop d'élèves qui quittent le système scolaire sans diplôme. Et le Premier ministre a annoncé la mise à disposition en Nouvelle-Calédonie d'une centaine d'éducateurs spécialisés dans le décrochage scolaire. Donc ça, c'est un travail qu'on a entamé. Je pense qu'on reviendra vers vous pour développer ce sujet parce que ce sont des moyens humains qui peuvent être très utiles en Nouvelle-Calédonie sur cette question.
En tout cas, c'est un sujet très important, hein, monsieur le vice-recteur, de lutter contre le décrochage scolaire. C'est vraiment une priorité cette année.
Alors, c'est une priorité ancienne, mais il est vrai que, avec le travail qui est mené par la mission interministérielle, il est apparu qu'il fallait encore plus accentuer nos efforts en la matière, puisqu'on a bien tout de même trop d'élèves qui, tous les ans, entre 16 et 18 ans, risquent de quitter notre système de formation sans diplôme d'aucune sorte. Donc nous les traçons, nous arrivons à les repérer et nous allons vraiment inviter les élèves qui ont échoué l'année dernière de justesse, notamment à leur CAP ou à leur bac pro, de revenir dans nos établissements.
Donc il faut les recontacter.
Ils seront recontactés évidemment par les chefs d'établissement. Et on leur proposera un dispositif d'accompagnement pour leur donner en 2026 les unités qui leur font défaut pour avoir l'examen.
Alors il n'y a pas de rapport de cause à effet bien évidemment, mais il y a aussi un travail sur les usages numériques parce que dans les établissements scolaires ils prennent de plus en plus de place. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des inquiétudes sur ces usages numériques? Il faut les encadrer comme il faut prononcer des interdictions, est-ce qu'il faut que les jeunes n'aient plus accès aux réseaux sociaux lorsqu'ils vont à l'école? Enfin voilà, toutes ces questions. Et on sait que les parents sont très très attentifs à ce qui se passe à ce niveau-là.
Bon, je crois qu'il faut agir dans toutes les directions parce que si on interdit tout, alors que les technologies peuvent également rendre des services à nos apprentissages, ce n'est pas la bonne solution. Donc il faut un usage raisonné de ces technologies, du téléphone portable par exemple, du téléphone portable. Cela dit, il est vrai que l'on invite nos établissements à faire du téléphone portable un usage restreint. On a conduit une expérience qui a abouti cette année à une généralisation au Collège Baudoux du non-usage du téléphone pendant le temps scolaire. Les élèves placeront leur téléphone dans des pochettes hermétiques qu'ils ferment quand ils rentrent dans le collège et qu'ils peuvent déverrouiller à la sortie, et qui fait que le téléphone sera inopérant le temps pendant lequel ils sont au collège. Et donc, ils ne seront ainsi pas détournés du sérieux et de l'attention qu'ils doivent porter à leurs apprentissages.
C'est une expérimentation, on est bien d'accord. Ça veut dire qu'il y aura une évaluation qui sera faite et éventuellement ce dispositif pourrait être généralisé ?
Alors, c'est une expérimentation qui a été conduite au collège. Elle est généralisée dans ce collège. Et évidemment, nous ferons une évaluation. Et notre idée, c'est effectivement de l'étendre plus largement. D'ailleurs, il y a des établissements qui n'ont pas attendu cette généralisation pour prendre des dispositions dans leur règlement intérieur de restreindre les usages du téléphone pendant le temps scolaire.
Alors Isabelle Chamorro, il faut aussi parler des conditions de cette rentrée scolaire, parce qu'on le sait, un certain nombre de familles rencontrent des difficultés économiques. Le gouvernement s'est engagé pour l'accompagnement de ces familles dans ce qu'on appelle les services périscolaires, que ce soit la cantine ou le transport. Quels sont les dispositifs qui sont mis en place et est-ce que cette aide est supérieure à celle des années précédentes?
Cette aide, elle est différente. Je voulais simplement dire sur le numérique aussi qu'on est en train de vérifier par rapport à la loi qui est en cours d'adoption en métropole, vous savez, d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. On est en train aussi de vérifier avec les juristes qui pourraient s'appliquer en Nouvelle-Calédonie. Donc ça viendrait compléter aussi ce qu'on fait dans les établissements scolaires. Avant 2024, c'était déjà une préoccupation, mais évidemment, depuis 2024, les familles sont dans une situation sociale aggravée et fragilisée. Donc pour nous, aider les enfants sur la cantine, le transport, mais aussi en matière de santé, c'est vraiment impératif pour les aider à réussir. Donc au niveau de la cantine, de manière très simple, on maintient les tarifs qu'on avait déjà en 2024. Donc depuis 2024, il y a eu des augmentations sur les matières premières, etc. On ne veut pas que les familles le subissent. Donc on va verser 25 millions à nos établissements pour que les établissements, eux, puissent compenser la hausse. Et donc les familles paieront le même tarif qu'en 2024 sur la cantine. Sur le transport, on a travaillé avec le SMTU. D'ailleurs, je remercie le président et les équipes du SMTU, par exemple, pour desservir le collège de Porte de Fer suite à la fermeture de Rivers-Allier. Il y avait des soucis. Donc le SMTU a travaillé sur plusieurs adaptations et notamment ouvrir une ligne spécifique entre Rivers-Allier et Port-de-Fer pour les élèves. Voilà, c'est un exemple. On continue aussi par une enveloppe de plus de 30 millions à soutenir le transport des internes dans le Nord. Là, c'est pour permettre aux lycéens de rejoindre leurs internats. Et ça, c'est, je parlais d'isolement tout à l'heure, c'est très important de soutenir nos élèves. Le dernier pan, c'est la santé. On ne peut pas apprendre et réussir si on est en mauvaise santé. Donc après avoir consolidé des visites médicales dans le primaire et en avoir mis une obligatoire en sixième en 2025, cette année, on va proposer une visite et un entretien au lycée. Ça va nous permettre comme ça de suivre tous l'élève sur tout son parcours et être sûr qu'il est dans de bonnes conditions pour les apprentissages.
Il y a déjà de très nombreuses campagnes, hein, soit de dépistage, soit d'information, soit de prévention qui sont faites. Ça va se continuer sur ce rythme-là?
Bien sûr, mais quand on voit que dans le baromètre santé qui est fait régulièrement par l'ASS, on constate encore de gros problèmes au niveau de la santé bucco-dentaire, les problèmes de sommeil de nos élèves, des problèmes de surpoids, on ne peut pas apprendre dans ces conditions. Donc nous, notre rôle, je dirais, le mot est pas très joli, mais en fait, les élèves sont captifs. Donc nous, on les prend en maternelle, on les amène, comme disait monsieur le vice-recteur, jusqu'à l'âge de 16 ans, 18 ans au sein de nos établissements. Donc notre responsabilité, c'est d'accompagner les familles, sans lesquelles on ne fera rien, ça je voudrais le rappeler, pour que ces élèves soient en bonne santé. Et je terminerai là-dessus en disant que la santé, c'est même une question d'employabilité. C'est-à-dire quand on sort du système scolaire, si on n'est pas en bonne santé, on travaille avec le RSMA par exemple souvent sur ce sujet, on ne peut pas forcément trouver un travail. Et donc c'est vraiment une implication de la collectivité sur le long terme.
Alors pour terminer, on a fait un petit panorama de cette rentrée scolaire et des actions que vous voulez mettre en œuvre. Un mot sur les conditions de cette rentrée. On se souvient que les rentrées précédentes avaient été parfois compliquées, notamment c'était le cas évidemment en 2025, mais aussi pendant la crise Covid. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rentrée scolaire, monsieur le vice-recteur? Vous pensez qu'elle va se dérouler dans des conditions qu'on n'a pas connues depuis un certain nombre d'années?
Exactement. Les informations dont nous disposons nous laissent penser que la rentrée se représente d'une manière sereine et fluide, en dépit du petit problème dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, moi, je crois que la rentrée, c'est un moment agréable. Tous les élèves sont contents de rentrer, les professeurs aussi, les chefs d'établissement que j'ai rencontrés hier matin. Et donc, je dirais, c'est un moment agréable. Ne la gâchons pas.
Moi, je dirais que c'est un moment agréable. Oui, c'est un moment important pour la société calédonienne, puisque autour de 60 000 élèves, on a les familles, les acteurs économiques, nos éducateurs également. Mais je voudrais aussi souligner la spécificité de cette rentrée. C'est que l'État nous a soutenus largement. Et c'est quand même grâce aussi à ces financements, et encore plus que d'habitude, qu'on a quand même pu reconstruire le lycée Pétro Attiti, où le budget de rénovation-construction va dépasser le milliard à terme, qu'on a pu remettre tous nos établissements scolaires en route. Donc ça, ce n'était pas possible. Et je rappelle quand même qu'on a aussi une masse salariale de plus de 50 milliards qui est encore financée par l'État. Donc je dirais quand même que la spécificité de cette rentrée, c'est un soutien majeur qui nous permet, je dirais, de faire tenir un système encore à cette rentrée 2026.
Isabelle Chambonreau, membre du gouvernement, charge notamment de l'enseignement. Didier Vindatich, vice-recteur et directeur des enseignements. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin et bonne rentrée, bien sûr.
Bonne rentrée
merci
à tous.
Beaucoup. Bonne rentrée.